Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil. Bienvenue dans Apolline Matin. Nous sommes le jeudi 27 novembre. Et maintenant, l'essence. Oui, les prix à la pompe vont augmenter le 1er janvier, 4 à 6 centimes par litre. Et la raison, c'est une taxe cachée qu'on n'avait pas vu venir, une taxe pour financer les économies d'énergie. Est-ce franchement à ceux qui roulent en thermique de financer l'électrique? Dans 10 minutes, le représentant des stations-service en France, Francis Pousse, et vos témoignages bien sûr au 32-16. Appelez-moi d'abord pour me dire à quel prix vous payez l'essence aujourd'hui, partout en France, dites-nous. Et puis surtout, est-ce que vous redoutez cette augmentation? Est-ce que vous considérez que c'est à ceux qui roulent en thermique de financer ceux qui roulent en électrique? Et ceux qui roulent en électrique, n'hésitez pas aussi à nous appeler et à nous dire combien ça vous coûte globalement au mois. Vous connaissez le chemin, le 32-16 et le WhatsApp d'RMC 06-12-424-424. Je vous signale également qu'Emmanuel Macron s'apprête à annoncer officiellement le retour d'un service militaire volontaire. N'hésitez pas là aussi à réagir. Et puis à 8h30, mon invité, ce sera l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Apolline Matin, c'est parti dans un instant, journal de 7h. Mais d'abord la météo, Géraldine, pluie au nord et soleil au sud.
Pour changer, hein, c'est un grand classique, effectivement. Alors le soleil au sud, il faut vraiment être très au sud. Les Pyrénées, le pourtour méditerranéen, les Alpes du Sud, là vous aurez du soleil. La Corse, en revanche, restera à l'écart, hein, toujours avec un temps perturbé. Et puis sur une large moitié nord, on va avoir un temps gris avec la pluie, effectivement, qui va balayer cette moitié nord. Attention, ce matin, il fait à nouveau froid, on retrouve des gelées, ça peut glisser, en particulier sur le nord-est. Cet après-midi, il fera froid dans l'est, mais ce sera plus doux dans le nord-ouest. On aura par exemple 14 à Brest ou à Rennes, 12 à Nantes, à La Rochelle, 11 à Marseille, 10 à Bordeaux, 8 à Paris, 7 à Lille, 6 à Lyon, 4 pour Nancy.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS AgriCNAPS.
Merci d'avoir choisi RMC pour vous accompagner ce matin. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Quelques centimes par ici, quelques euros par là, et à la fin, c'est le portefeuille qui va trinquer. Hausse des coûts de l'énergie à venir en 2026, on vous explique dans ce journal. Un acte de terreur, les mots de Donald Trump après les tirs qui ont visé deux soldats de la garde nationale américaine grièvement blessés hier à Washington. Un suspect afghan a été interpellé. Et le PSG, beaucoup, beaucoup trop fort pour Tottenham, vainqueur 5-3 hier soir en Ligue des Champions, avec un triplé de l'indispensable Vitinha.
Mauvaise nouvelle pour le portefeuille ce matin.
Les prix de l'énergie, je vous le disais, vont grimper en 2026. D'abord à la pompe, 4 à 6 centimes de plus par litre de carburant selon l'Union française des industries pétrolières. Comptez en moyenne 3,5% sur votre facture de gaz. Conséquence, Marion Gauthier, de la réévaluation d'un dispositif méconnu, les certificats d'économie d'énergie.
Le dispositif repose sur le principe du pollueur-payeur. Les fournisseurs de carburant ou de gaz sont contraints de financer la réduction de la consommation. Pour qu'un particulier remplace une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, par exemple, c'est son fournisseur d'énergie qui paie une subvention. Il reçoit en échange un certificat d'économie d'énergie, explique Nicolas Moulin. Il est président de primeenergie.fr.
La somme d'argent qui doit être donnée par les énergéticiens au plus grand nombre pour faire des économies d'énergie, et bah ça augmente de 25%. Et bah évidemment, ces coûts ils sont répercutés en fait aux consommateurs. C'est une taxe indirecte, c'est ça qu'il faut bien comprendre.
6 milliards d'euros étaient demandés aux fournisseurs en 2025. Ce devrait être 8 milliards à partir de 2026. C'est une obligation, insiste Nicolas Moulin, et cela évite à l'État, dit-il, de payer la transition énergétique.
Qui dit augmentation d'obligation, qui dit quand même plus d'aides. Si on veut des aides à la rénovation, à l'achat d'un véhicule électrique, il faut que ce soit financé par quelqu'un.
Quant à l'impact des certificats d'économie d'énergie sur l'évolution des prix en 2026, le ministère de l'économie assure être très vigilant.
Hausse du prix du gaz, hausse du prix du carburant, ça vous fait réagir. Appelez-nous pour témoigner au 32-16.
Le gouvernement rétropédale sur la hausse de la taxe foncière pour plus de 7 millions de logements suspendus d'ici au printemps. Annonce de Sébastien Lecornu qui souhaite une nouvelle méthode de calcul plus locale. C'est l'information de la nuit. Deux militaires de la garde nationale américaine blessés par balle à Washington hier à quelques pas de la Maison Blanche. Ils sont dans un état critique ce matin. On retrouve sur place notre correspondant RMC Antoine Delard. Antoine, un homme a été interpellé, suspecté d'être l'auteur de tirs ciblés à l'encontre des deux soldats.
Oui, le suspect est un Afghan de 29 ans. Il aurait travaillé avec les Américains en Afghanistan. Et puis, en 2021, lorsque l'armée américaine s'est retirée en catastrophe, il a été évacué vers les États-Unis, où il a fini par obtenir le statut de réfugié. À ce stade, ses motivations restent très floues. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre pourquoi il s'en est pris à ces deux militaires. Pour le moment, pas de réponse. Le tireur présumé ne coopère pas et refuse de leur parler. Trump, qui a pris la parole tout à l'heure, dénonce quant à lui un acte de terreur et dans une charge très violente contre les migrants. Il accuse Biden d'être responsable. L'ancien président, selon lui, a laissé entrer aux États-Unis des millions d'étrangers sans le moindre contrôle. Trump annonce qu'il va réexaminer toutes les demandes d'asile accordées par l'administration précédente. Il annonce aussi le déploiement de 500 gardes nationaux supplémentaires à Washington. La garde nationale qui est présente dans les rues de la capitale depuis l'été dernier, malgré les protestations des habitants et de la justice qui a récemment ordonné la fin de ce déploiement.
Antoine Delard, correspondant RMC à Washington. À l'étranger, toujours l'incendie d'un complexe de plusieurs immeubles à Hong Kong a fait au moins 44 morts, bilan toujours provisoire. Le feu n'est pas éteint ce matin. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues.
RMC 7h04, Emmanuel Macron est attendu en Isère ce matin.
C'est auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars que le chef de l'État doit annoncer la nouvelle formule du service militaire. Nouvelle mouture remise au goût du jour sur base du volontariat à destination des jeunes majeurs. Faut-il encore pouvoir les convaincre? Reportage au près de 200 jeunes réunis pour leur journée de défense et citoyenneté en banlieue parisienne. Lou Garnier.
Devant sa ration militaire à la pause déjeuner, Mohamed l'avoue, l'armée, il ne la connaît que de loin, mais il en a toujours admiré les valeurs.
Discipline, esprit d'équipe, épreuve aussi.
Alors une nouvelle forme de service militaire, c'est une bonne idée, mais ce sera sans lui.
Il va durer 10 mois, payé, ça pourrait te plaire.
Personnellement, je sais pas, ça me chauffe pas trop.
Ils sont nombreux, comme lui, à se dire soulagés du caractère optionnel. Mais pour d'autres, l'armée, c'est l'objectif d'une vie, comme pour ce jeune homme de 17 ans, sac militaire au pied. Face aux guerres, il veut être capable de défendre son pays.
On n'a pas envie que ça vienne sur le territoire français, que nos familles, nos amis soient impactés. Donc on a envie de s'engager, d'y aller.
Un patriotisme que partage Laurent. À 48 ans, il fait partie des dernières générations d'appelés à avoir fait son service militaire obligatoire. Aujourd'hui charcutier, il ne l'a pas oublié.
C'est la rigueur, c'est le respect, et ça apprend un métier aux jeunes. Il faut continuer à avoir des volontaires, des gens vaillants, et qui puissent défendre le pays.
Augmenter le nombre de personnes capables de défendre le pays, c'est indispensable en cas de nouvelle guerre, selon lui.
Et les Français, qu'en pensent-ils? Plus de 7 personnes sur 10 se disent favorables sur le principe à la création d'un service militaire volontaire selon un sondage. Et là, pour BFM TV. Sans surprise, la commission mixte paritaire a échoué hier soir. Députés et sénateurs n'ont pas trouvé d'accord sur le budget de la Sécu. Une deuxième lecture va donc s'engager. Ce sera d'abord à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Les sénateurs de droite, eux, se retrouvent dans le viseur des responsables du culte musulman. Dans une lettre ouverte au président du Sénat, Gérard Larcher, ils dénoncent la stigmatisation dont ils sont victimes. Cela fait suite à la publication d'un rapport mardi qui appelait à lutter contre l'islamisme. L'interdiction du port du voile aux moins de 16 ans est l'une des 17 propositions LR de ce rapport et suscite la colère de Bassirou Camara. Il est porte-parole de l'association de lutte contre les actes musulmans.
Les musulmans ont eu la mauvaise surprise de constater que parmi ces propositions, il y avait par exemple l'interdiction de pratiquer le ramadan pour les jeunes de moins de 16 ans. C'est-à-dire que là, ils considèrent qu'il y a un cap qui est franchi et que la laïcité qui est un garant et une sécurité pour les personnes qui croient et les personnes qui ne croient pas, est complètement bafoué. Les musulmans se sentent agressés dans leur liberté fondamentale qui est celle de croire ou de ne pas croire, parce que on voit qu'il y a une ingérence dans la pratique même du culte.
Le PSG est deuxième du classement de Ligue des Champions ce matin après son succès face à Tottenham hier soir au Parc des Princes, mené par deux fois. Les Parisiens n'ont jamais douté. Ils s'imposent 5-3 grâce au collectif mais aussi à l'individualité de son milieu de terrain. Vitinha, il a sonné la révolte. Performance hors norme du Portugais Arthur Perrault, buteur par trois fois hier soir.
Le milieu de terrain de 25 ans n'en finit plus d'impressionner les supporters du PSG.
Incroyable, un magicien, c'est trop fort.
Vitinha, il était beaucoup critiqué. Moi, je suis content pour lui parce que bon, on l'a comparé à Verratti quand il est arrivé. J'adore Verratti, mais bon, au final, celui qui ramène la Ligue des Champions et celui qui porte l'équipe, c'est Vitinha, quoi.
Vitinha a inscrit hier soir 3 buts, une performance impressionnante avec 109 ballons touchés et 7 récupérés qu'il n'est pas prêt d'oublier.
C'est vrai que j'ai jamais pensé à marquer un hat-trick, donc ça fait du bien et surtout Ça a aidé l'équipe, donc je me sens encore plus heureux pour ça.
Le numéro 17 parisien a encore porté son équipe à bout de bras. Il est le joueur le plus décisif du PSG cette saison avec 5 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le capitaine Marquinhos.
Et il est toujours sur le terrain, des fois on le dit qu'il faut qu'il se repose un peu aussi des fois. Mais c'est un joueur qui aime le foot, qui se donne toujours à fond.
Le troisième au classement du dernier Ballon d'Or confirme qu'il est aujourd'hui la référence mondiale au poste de milieu de terrain.
Déception en revanche pour Monaco, battu 2-2 sur la pelouse des Chypriotes de Paphos. À retenir également l'incroyable quadruplé de Kylian Mbappé, vainqueur avec le Real Madrid de l'Olympiakos 4-3. À suivre ce soir la cinquième journée de Ligue Europa, trois clubs français à suivre, Nice, Lyon et Lille.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. Et justement, Thibaut le disait à l'instant, l'augmentation des prix du carburant, 4 à 6 centimes de plus par litre à partir du 1er janvier. Essence, gasoil, les carburants vont grimper et en cause une hausse des certificats d'économie d'énergie pour les fournisseurs. En gros, l'idée, c'est de financer la transition énergétique. Bonjour Francis Pousse. Vous représentez les stations-service en France. Pour vous, on fait payer à ceux qui roulent en thermique pour ceux qui roulent en électrique. Vous nous le dites dans un instant, mais je vous attends aussi au 32-16 à 7h09. Vous êtes peut-être au volant sur les routes de France. Vous êtes routier, vous êtes particulier. Appelez-nous pour nous dire combien vous payez l'essence et si vous estimez que c'est à vous de payer. Et puis si vous avez du gaz à la maison, sachez que là aussi, ça va augmenter. Je vous attends au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. 4 à 6 centimes de plus par litre de carburant à partir du 1er janvier. Les prix à la pompe vont flamber. Bonjour Francis Pousse.
Bonjour.
Vous êtes le président des stations-service chez Mobilience. Cette hausse, elle est liée à l'augmentation au 1er janvier de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. En gros, c'est une taxe qui existait déjà mais qui va encore augmenter. Et c'est pour les fournisseurs de gaz et de carburant. On parle bien de 4 à 6 centimes que vous allez devoir répercuter, vous, sur les prix à la pompe.
Alors oui, on parle bien de 4 à 6 centimes que nous, on va obligatoirement en répercuter, puisqu'en fait, c'est nos fournisseurs qui nous les répercutent. Donc, c'est pas nous qui sommes redevables de cette taxe, c'est en amont qu'elle est payée. Donc, nous, on n'aura pas le choix. Et évidemment, notre marge ne bougera pas du tout à cette occasion, puisque je rappelle qu'on a une marge fixe, quel que soit le prix du carburant vendu.
Vous avez une marge fixe, c'est les taxes qui systématiquement augmentent. Cette taxe-là, elle est officiellement pour financer la transition énergétique, pour faire des économies d'énergie.
Tout à fait. C'est la sixième période qui démarre là, le 1er janvier, raison pour laquelle ça augmente, puisque malheureusement, à chaque période, il y a un petit surcroît de taxation. Alors, c'est pas officiellement une taxe, mais c'est plus facile de comprendre quand on parle de taxe. Pour mes mots, en 2019, on n'était que à 3 centimes. Là, on va passer à 15 à 16 centimes sur un litre
d'essence. Donc, ça veut dire que depuis le début de cette taxe, à la fin, elle représente quoi? Elle représente une hausse d'au moins 10 centimes.
Ah oui, depuis 2009, hein, et on n'était pas au début, en 2009, on aura au 1er janvier 13 centimes de plus sur les C2E. Et passons la taxe sur le carburant, l'ex-TICPE, qui entre 2012 et 2019 avait augmenté entre 15 et 20 centimes TTC.
Il y a Bénédicte qui nous appelle au 32-16 depuis la région de Montpellier. Bonjour Bénédicte. Bénédicte, vous êtes préparatrice en pharmacie. Vous êtes dans la voiture, là?
Non, je pars de chez moi, presque.
Ah, vous vous apprêtez à partir de chez vous. Bonjour, Bénédicte.
Voilà. Bonjour.
Il va augmenter, donc, le carburant. Vous roulez à quoi, vous?
Moi, je prends le E10. J'essaye de faire, voilà, le 95, le E10, quand c'est disponible pour payer pas trop cher, en fait, le plein.
Et vous roulez beaucoup?
Alors actuellement, du coup, j'ai changé de travail, donc je suis à côté de chez moi, je me sers pas beaucoup de la voiture.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça compte aussi, effectivement, quand on fait le choix d'un lieu de travail, d'un lieu de vie, par rapport aussi au coût de l'essence.
Vous vous y attendiez, là, à une nouvelle hausse un peu cachée?
Ah non.
Est-ce que vous la comprenez, cette hausse?
Alors, oui et non, parce qu'on sait jamais vraiment de quoi on retourne les taxes, en fait, je pense. Et après, effectivement, comme j'ai mis dans mon message, moi j'habite dans un immeuble, on n'a aucune possibilité en fait au niveau de recharge électrique, donc effectivement, et puis pas forcément la possibilité non plus d'achat de véhicules électriques.
Oui, parce que à l'achat
voilà,
ça coûte, hein.
Ça coûte, voilà. Donc effectivement, c'est vrai que moi c'est aussi un choix, on va dire, global.
Ouais.
Et
par défaut, parce que vous n'avez pas le choix, en fait.
Par défaut. Ouais. Oui, c'est ça.
Donc, c'est vrai que vous faire payer à vous, vous n'êtes pas contre passer à l'électrique, mais il faudrait dans ces cas-là que vous ayez de quoi recharger effectivement à la maison et puis les sous pour pouvoir l'acheter. Si on vous donnait les sous pour acheter la compensation, est-ce que vous passeriez à l'électrique?
Ah oui, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, au contraire, je trouve que voilà, c'est très vertueux. Par contre, en revanche, effectivement, je pense qu'il n'y a pas assez d'aide et d'accompagnement au niveau de l'utilisation au quotidien des véhicules électriques.
Merci beaucoup, Bénédicte. Bonne journée.
Quoi, vous, passez une bonne journée.
Bénédicte, donc, qui nous dit effectivement qu'elle s'apprête à prendre son véhicule. Francis Pousse, quand vous entendez ça, c'est-à-dire l'idée de cette taxe, c'était aussi de faire payer quand même à ceux comme Bénédicte pour... mettre en place de plus en plus d'électriques, mais il y a un problème quand même, il y a une sorte de plafond. Est-ce qu'elle a encore du sens?
Ces certificats d'économie d'énergie à la base ont été créés pour financer la rénovation thermique des bâtiments, les fameuses pompes à chaleur, l'isolation, etc. On remarquera qu'un rapport de la Cour des comptes récemment a dit qu'il fallait revoir intégralement cette taxe parce que il y avait des utilisations qu'on peut qualifier d'un peu douteuses. Donc, autrement dit, un détournement des financements.
Vous voulez dire qu'étonnamment, cette taxe qui avait été fléchée au départ sur quelque chose, elle est utilisée pour le reste.
C'est une originalité de 2024, effectivement. Jusqu'à maintenant, les bonus malus étaient encaissés par l'État pour le malus et décaissés par l'État pour le bonus. Je pense que vous savez tous qu'il manque un peu de sous dans les caisses.
Voilà.
Et là, on s'est dit, tiens, on a des C2E qu'on pourrait utiliser, flécher vers des véhicules électriques. Donc, ça a commencé par le leasing social. Leasing social version 2025, qui d'ailleurs, il reste encore des véhicules à louer en leasing social. Il y a moins d'appétence que l'an dernier sur ces fameux véhicules en leasing social. Ça représente quand même à peu près 400 millions sur le budget des C2E de l'année. Rappelons que cette hausse de C2E va ramener 2 milliards de plus en 2026. De l'autre côté, il y a aussi sur la prime qui a été confirmée à 5 700 euros pour les véhicules électriques, une partie des C2E qui vont financer
Donc c'est vraiment un vase communicant entre ceux qui roulent au thermique et ceux qui roulent à l'électrique.
Oui, tout à fait. Vous payez,
c'est très précisément ça.
Vous, propriétaire d'un véhicule thermique, vous payez pour l'achat de véhicules électriques.
Sauf qu'il faut encore avoir les moyens de l'acheter, ce véhicule électrique. Et comme le disait Bénédicte à l'instant, avoir les moyens de l'acheter et ensuite avoir les moyens de le recharger, ce qui n'est toujours pas le cas dans un certain nombre d'endroits de France.
Oui, et puis, dont acte, le leasing social existe, mais en fait, pourquoi ça prend pas autant qu'on aurait voulu? C'est simplement parce que il faudrait ouvrir la possibilité de ce leasing social à des catégories, un peu plus élevées, puisque pour un ménage qui a un faible revenu, il a besoin d'une voiture mixte. Il a parfois une seule voiture, il veut partir en vacances, etc. Par contre, si vous ouvrez avec un peu plus à des gens qui ont un peu plus de moyens, ça sera la deuxième voiture qui sera 100% électrique, mais qui aujourd'hui est quand même trop cher pour pouvoir amortir l'investissement.
Il reste trop cher. Merci Francis Pousse, donc président des stations-service et énergie chez Mobilience. Vous nous confirmez bien donc cette hausse mécanique du litre par carburant, de carburant de 4 à 6 centimes au 1er janvier. 7h19, Arthur Chevalier, pendant ce temps-là, est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le président de la République va annoncer ce midi le retour du service militaire. Le service militaire qui avait disparu il y a 30 ans.
Oui, en 1997, Jacques Chirac avait stoppé le service militaire obligatoire. Et c'était une première en France depuis le XVIIe siècle.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demange va également venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes tout pile sur RMC 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, ce midi, Emmanuel Macron va annoncer le rétablissement d'un service militaire sur la base du volontariat. Pour vous, il était temps?
Oui, parce qu'un pays qui n'est pas prêt à se défendre, c'est un pays vulnérable. La France aura finalement passé très peu de temps sans service militaire. Ça n'a été suspendu qu'en 1997, donc il y a moins de 30 ans. À l'échelle de notre histoire, c'est rien.
Est-ce qu'il y a eu toujours un service militaire en France?
Alors pas toujours, mais enfin ça date quand même du XVIIe siècle. Hein. On crée ce qu'on appelle la milice royale, une première forme de service militaire. Et pour choisir les appelés, on avait adopté une méthode, le tirage au sort. On tirait au sort parmi les hommes entre 16 et 40 ans. C'était obligatoire et ça durait quand même 6 ans.
Ah oui. Est-ce qu'il y avait déjà un système de volontariat comme celui que veut mettre en place Emmanuel Macron ?
Alors le volontariat, ça se généralise sous la Révolution française et ça marchait très bien. Hein. En 1791, on recrute en France plus de 100 000 volontaires nationaux qui, pour 80% d'entre eux, avaient entre 18 et 25 ans, comme quoi les jeunes peuvent s'engager. C'était bien, mais pas assez. Donc en 1793, la République organise la première conscription, c'est-à-dire sous la contrainte, hein. On lève 300 000 hommes d'un coup. À partir de là, servir sous les drapeaux, ça fera toujours partie des devoirs du citoyen.
Notre service militaire vient de ce modèle.
Exactement. À partir de 1804, on réinstaure un tirage au sort parmi les célibataires de 20 à 25 ans. Donc en gros, sur 100 personnes, 35 étaient appelées sous les drapeaux. Et c'était parti là pour 5 ans de service. Alors il y avait quand même un moyen d'y échapper, c'était de payer pour que quelqu'un aille faire votre service à votre place, ce qui était une très bonne nouvelle pour les riches, beaucoup moins pour les pauvres, évidemment.
J'imagine qu'il y avait des personnes qui essayaient d'y échapper.
Ah oui, oui. Alors là, sous Napoléon, échapper au service, c'était un sport national. Et figurez-vous qu'il y avait même un business de potions magiques, et oui, des potions qui étaient censées vous rendre myope ou aveugle. La chance, c'était en fait des causes d'exemption. Mais le plus simple, c'était encore de se marier, puisque les mariés étaient exemptés. Donc vous aviez une explosion des faux mariages entre des très jeunes gens et des très vieilles veuves. Par exemple, en 1809, la préfecture du Nord enregistre une union entre un type de 20 ans et une dame de 99 ans. On était prêts à tout. Hein.
Ça a évolué ensuite.
Ça évoluera, mais à la marge, hein, puisqu'en France, le service militaire restera au cœur du projet républicain. En 1905, on arrête le tirage au sort et on réduit la durée à 2 ans. La dernière conscription, c'était il n'y a pas si longtemps, puisque c'était pendant la guerre d'Algérie, entre 1954 et 1962. On avait quand même appelé 1,5 million de jeunes Français pour une durée de 30 mois. En 1992, le service passait à 10 mois. Et en 1997, Jacques Chirac ne l'a pas supprimé, mais suspendu, en précisant qu'il pouvait être rétabli à tout moment. C'est peut-être aujourd'hui un premier pas.
Et ce sera donc annoncé à midi par Emmanuel Macron. Merci Arthur Chevalier, l'historien et ex-réserviste.
Absolument.
Magnifique,
lieutenant
ça.
Dans la marine.
Lieutenant dans la marine. Oh, je vais vous appeler lieutenant maintenant, c'est
ah ouais,
chic.
Lieutenant chevalier.
Lieutenant chevalier, c'est quand même... ça claque. 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Comment ça va, Arnaud ?
Eh ben, ça va bien, Apolline.
Arnaud, mon invité, tout à l'heure, on reste quand même dans le domaine du militaire. C'est l'ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
C'est ce que je voyais, on se fait plaisir encore. Hein. Vincent Jeanbrun, puis François Hollande. Apro continue son tour de France des sex-symboles. Aujourd'hui, un beau légionnaire, Jean-Yves Le Drian. Ancien ministre des Armées, aujourd'hui c'est... Catherine Vautrin, retenez-vous.
Ah oui,
j'avais pas compris la question.
Oui.
Il a dirigé l'armée très longtemps, notre Breton. On se souvient de lui défilant devant les troupes en disant « Messieurs, c'est l'heure de défendre notre terre. C'est pourquoi les chefs vont vous donner à tous des gorgées d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il n'y ait de faille. Vous restez fiers quand vous serez dans la bataille. » Emmanuel Macron va annoncer aujourd'hui la création d'un service militaire volontaire. Ça, c'est dû en même temps, c'est typiquement Macron. C'est un service militaire et en même temps... Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. On s'embête pas, voilà. Ça avec les impôts aussi. Tu dois les payer.
Mais
si tu veux pas, tu le fais pas. On se fait pas chier. Alors moi j'ai, c'est ça le consentement, c'est cool. Moi j'ai pas fait mon service militaire hein, comme Trump ou Éric Ciotti ou Sébastien Chenu. Sauf que moi j'ai pas triché. Il y avait plus. Et de toute façon, ils n'ont pas voulu de moi. J'y suis allé, j'ai été rejeté par l'armée. J'ai dit, mais je veux devenir Rambo, monsieur. On m'a donné un fusil, j'ai basculé vers l'avant. Basculé vers l'avant, comme Éric Zemmour. Ils m'ont dit, non. Voilà, l'armée n'a pas voulu de mon corps. Déjà que les prêtres de ma paroisse, ils n'en avaient
non.
pas voulu.
Oh, ça, c'est étonnant.
J'ai grandi dans le rejet permanent, moi. Donc là, il s'agit d'envoyer des jeunes à l'armée. L'armée, ils voulaient des crédits, on leur envoie des puceaux. C'est l'arnaque, quand même. Ils étaient là. Bah non, mais nous, on voulait plus de moyens. Mais ils sont moyens. Ils sont très moyens. Ils écoutent du Jul et ils se prennent pour Tony Montana alors qu'ils squattent au salon du manga. Je vous jure, ils sont moyens. Alors le service militaire a fait beaucoup de mal, surtout évidemment au cinéma français, avec tous les films de bidasse dans les années 70 et 80. On va se faire un mini quiz juste pour le fun. Est-ce que ce film de bidasse a existé ou pas? Les bidasses en folie.
Oui.
Les bidasses à Mariupol.
Non,
c'est pour l'année prochaine. Les bidasses sont des badasses.
Non.
Mon curé champion du régiment.
Non. Oui.
Oui. Le Führer en folie.
Non.
Si.
Mais non.
Si. Avec Alice Sapritch et Henri Tiso. Alice Sapritch qui conduit un tank rose. Faut le voir. dans le rôle d'Eva Brown.
Mais quelle culture.
Catherine Vautrin sifflera trois fois.
Non. C'est dommage.
Quatre zizi au garde à vous.
Non.
Oui,
mais
oui,
non.
Si. Faut se les faire, c'est légionnaire.
Oui,
oui, évidemment. Oh, Macron et les troufions.
Non.
Non, c'est pour tout à l'heure. Voilà, je crois qu'on a bien déblayé le terrain de l'interview.
Là,
je vous laisse
prête.
Mes notes, hein, si
oui,
vous voulez.
Oui, je suis prête.
Si je peux service, allez, rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian à 8h30.
Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h15 en podcast et sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et dans 10 minutes, cette question, faut-il nationaliser ArcelorMittal? La question, elle sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale à l'initiative de la France Insoumise. Le géant de l'acier qui est en grave difficulté et qui s'apprête à supprimer 600 emplois en France. À 7h50, il y aura aussi Cécile Duflo, la voix de gauche. Il est 7h27. 7h30.
Apolline Matin.
Il est 7h30, c'est l'heure du journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le filet anti-projection de la maison d'arrêt de Nice sur le point de craquer sous le poids de tous les colis illicites envoyés aux détenus depuis l'extérieur, à l'heure où le garde des Sceaux réclame des fouilles XXL dans les prisons françaises. Les salariés d'ArcelorMittal qui manifestent ce matin sous les fenêtres de l'Assemblée nationale alors que les députés vont débattre d'une nationalisation de l'aciérie. Et puis les mouvances masculinistes, nouvelles menaces terroristes. Le phénomène inquiète les autorités. C'est le choix de la rédaction ce matin.
Pendant le mois à venir, toutes les prisons de France vont être fouillées.
Annonce hier matin du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui veut faire la chasse aux objets illicites et notamment aux téléphones portables. Et s'il en cherche des objets illicites, il va en trouver à la maison d'arrêt de Nice ou plutôt dans son filet anti-projection qui surplombe le mur d'enceinte de l'établissement et qui menace désormais de s'effondrer, Julie Brault.
Chaque jour, ce sont plusieurs dizaines de colis illicites qui sont envoyés depuis l'extérieur par-dessus le mur d'enceinte de la prison, déplore Nordine Swab, secrétaire local du syndicat UFAPUNSA.
Ils se mettent là, ils sont en surplomb et ils jettent par-dessus. Et les détenus, ils n'ont plus qu'à jeter des cannes à pêche de fortune pour essayer de récupérer les colis qui sont envoyés.
Cigarettes, drogues ou encore téléphones portables, aujourd'hui le filet anti-projection de la prison s'affaisse sous le poids des colis restés coincés dedans.
Habituellement, on arrive quand même à nettoyer un peu le filet, à brûler tout ça, mais là, il y a vraiment eu beaucoup de choses coincées dedans. Parfois, sur un week-end, on récupère 50 colis quand même. C'est ce que nous, on récupère, donc ça veut dire qu'eux, ils en ont récupéré aussi.
Alors que Gérald Darmanin annonçait hier le lancement de fouilles XXL dans les prisons françaises pour lutter contre le phénomène, le surveillant pointe une mesure insuffisante.
Faire des fouilles, ça se fait déjà. Nous, ici, à l'établissement, ils en font grosso modo une par mois. C'est quotidiennement qu'il faudrait faire ça. Mais c'est pas possible. Ça a un coût, ça coûte en personnel et le personnel, on l'a pas.
Du personnel trop peu nombreux qui doit ici faire face à un taux de surpopulation de 200%, l'un des plus élevés de France.
Donald Trump dénonce un acte de terreur ce matin et durcit le ton sur l'immigration après les tirs qui ont gravement blessé deux militaires américains aux abords de la Maison Blanche à Washington. Le suspect, un Afghan de 29 ans, a été arrêté, mais on ne connaît pas pour l'heure ses motivations. En France, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit dévoiler les modalités du nouveau service militaire volontaire. Il s'exprimera à midi depuis Vars en Isère devant la 27e brigade d'infanterie de montagne.
RMC 7h33, les salariés d'ArcelorMittal se réunissent devant l'Assemblée nationale ce matin.
À 11h, pour interpeller les députés sur leur sort en cette journée de niche fiscale des Insoumis qui propose de nationaliser l'aciériste qui a annoncé au printemps près de 300 suppressions d'emplois. Une mobilisation à l'appel de la CGT à laquelle ont répondu ses salariés du site de Dunkerque, Clara Gabillet.
Une dernière réunion avant une journée historique, espère Aline, salariée et déléguée CGT.
On n'a plus d'autres portes de sortie, donc la seule, c'est la nationalisation. C'est un espoir.
23 ans comme informaticienne chez ArcelorMittal qui s'achèveront bientôt par le plan social annoncé en avril par la direction.
Le but est de faire nos compétences soit en Inde ou en Pologne. J'ai 52 ans, je me demande dans quel emploi je peux être reclassée.
Des suppressions d'emplois qu'ArcelorMittal justifie par une baisse de la demande en Europe et des prix plus bas en Asie. Une entreprise que Christine, salariée depuis 15 ans, ne reconnaît plus.
On voit qu'ils n'investissent pas sur les outils tombent en ruine, ils doivent être réparés, on n'a pas les pièces de rechange.
Un plan de décarbonation suspendu depuis un an, dénonce Gaëtan Lecoq, le représentant CGT du site.
On doit décarboner 30% de notre site à horizon 2030, donc si on ne les réalise pas rapidement dans les prochains mois,
on sait qu'on est condamné.
Une nationalisation estimée à 3 milliards d'euros, mais qui a peu de chances d'être votée. Les salariés espèrent au moins que les députés sortiront de l'hémicycle pour les rencontrer.
Et celle qui est à l'origine aussi de cette demande de nationalisation, Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, sera mon invitée juste après ce journal. Et je vous attends au 32-16. Appelez-nous si vous êtes ouvrier, si vous travaillez dans l'industrie. L'industrie menacée, fragilisée en France, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous l'observez? Dites-le-nous au 32-16.
La niche fiscale des Insoumis à l'Assemblée est donc une petite pause pour les députés dans les négociations budgétaires. L'examen du budget de la Sécurité sociale reviendra dans l'hémicycle la semaine prochaine après l'échec hier d'un compromis avec le Sénat. Le Sénat qui s'empare aujourd'hui d'un tout autre sujet hautement sensible, le masculinisme. Les sénateurs vont plancher audition à l'appui sur ce mouvement venu des États-Unis qui prône la supériorité des hommes sur les femmes. Ils produiront ensuite un rapport car ces mouvances inquiète à la fois pour leur recrudescence sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Louis Salé, vous avez mené l'enquête pour RMC et vous l'avez constaté, la menace est prise très au sérieux par les autorités.
Oui, à Saint-Étienne, pour la première fois cet été, le parquet national antiterroriste s'est emparé d'une affaire liée au mouvement masculiniste. Un homme de 18 ans a été arrêté muni de deux couteaux. Il voulait s'en prendre à plusieurs filles de sa classe préparatoire. Certains adeptes sont surveillés de très près par les services de renseignement français parce qu'il représente une potentielle menace terroriste.
Et ce sont les réseaux sociaux, Louise, qui servent de passerelle.
Oui, dans des vidéos, des influenceurs diffusent cette idéologie, expliquant que les hommes doivent dominer les femmes en passant, s'il le faut, par la violence. Des discours qui visent notamment les adolescents. Ils tombent facilement sur ces contenus sur TikTok. Ils en rigolent entre eux, mais certains peuvent les prendre au sérieux. Des hommes plus âgés aussi, blessés par une rupture amoureuse ou un divorce, y voient une explication à leur souffrance. Certains chercheurs parlent même de radicalisation, car des hommes s'enferment dans cette idéologie, créent des communautés. L'association Capri à Bordeaux, qui accompagne des hommes radicalisés, est habituée au profil en lien avec la religion. Mais cette structure suit de plus en plus de garçons liés aux mouvances masculinistes. Le centre en a accueilli 25% de plus cette année.
Le choix de la rédaction signé Louise Salé en direct ce matin pour RMC. Il est 7h37 et le PSG a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Après un match spectaculaire hier soir contre Tottenham, écrasé 5-3 grâce à un triplé de Vitinha. De son côté, Monaco a dû se contenter d'un match nul de partout face au modeste chypriote de Paphos. Un mois après son arrivée à la tête de l'équipe monégasque, Sébastien Pogonioli est conscient que des progrès sont encore nécessaires.
On a joué contre une équipe d'expérience qui a tiré les ficelles du métier comme il le fallait. Il nous manque un petit peu ce côté roublard, un peu vicieux, un peu agressif. Je suis un coach avec une envie d'apporter ce caractère à l'équipe. Ça fait un mois que j'y travaille. J'essaye de la cerner, de la pousser. Ça prend du temps. Il faut jongler entre l'instabilité.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Feldenkrais Pâle. L'outsider, c'est le 6, Brothers in Arms.
C'était le journal des listes d'Angean. 7h37, vous réagissez à ces prix du carburant et du gaz qui vont augmenter. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Mickaël, qui nous appelle du Calvados. Vous êtes justement transporteur. Ça vous surprend cette hausse 4 à 6 centimes dès le 1er janvier?
Non, je pense qu'on s'y attend plus ou moins du fait de tout ce qu'il y a à payer en ce moment. Donc avec toutes les tests qu'on nous fait en ce moment, il n'y a plus aucune surprise, je vous dirais. Moi, je voulais alerter sur le fait qu'il n'y aura pas que l'augmentation du carburant qui va augmenter. Ça va se répercuter aussi au niveau du consommateur parce que. Étant donné que nous, en tant que transporteurs, on répercute l'indexation gazole, on appelle ça, donc suivant le prix du carburant. Donc mécaniquement, ça va se répercuter sur les coûts de transport du client. Donc le client, à la fin, il répercute ça sur le prix des
articles. De la marchandise que vous transportez.
Donc les consommateurs paieront plus cher les courses dans le caddie à la fin.
Donc en effet, c'est encore une augmentation. Alors, il y a une chose qui peut-être va pas autant augmenter que ce qui était prévu, c'est la taxe foncière. J'avais posé la question, vous l'avez peut-être entendu, à Jean Brun, j'oublie son prénom, tiens. Vincent Jean Brun, merci Élise. Vincent Jean Brun, le ministre du Logement, qui effectivement reconnaissait que c'était quand même hallucinant et puis un très mauvais timing. Et on nous annonce que peut-être cette hausse va être suspendue. Mais en tout cas, merci Mickaël d'avoir fait tout le chemin, j'allais dire, du prix du carburant, parce que effectivement, ce sera répercuté sur les marchandises. Merci beaucoup Mickaël, il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on va parler aussi de ces nationalisations, de la question d'ArcelorMittal. Faut-il nationaliser le géant de l'acier ArcelorMittal? Il y a 600 emplois qui sont menacés. Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour.
Vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Vous défendez aujourd'hui à l'Assemblée nationale cette nationalisation, mais je vous interrogerai aussi d'ailleurs sur toutes ces hausses de taxes, le budget qui est encore en discussion. On va voir s'il arrive à retomber sur ses pieds. Il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Faut-il nationaliser ArcelorMittal ? Bonjour Aurélie Trouvé.
Bonjour,
vous êtes députée LFI de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, jour de niche fiscale LFI, vous avez mis au programme le vote sur la nationalisation de l'aciériste ArcelorMittal. Pour vous, c'est une question de souveraineté nationale.
Oui, alors d'abord c'est pas une niche fiscale, c'est une niche parlementaire, c'est la journée
évidemment.
C'est la journée réservée, vous savez, une fois dans l'année nous allons pouvoir proposer des lois, la France insoumise, pour changer la vie des gens tout simplement, et c'est le cas tout simplement de tous les ouvriers, les techniciens, les travailleurs de l'industrie, parce que voyez-vous, la production de l'acier en France est tout simplement menacée, en grand danger, puisqu'il y a maintenant 20 ans, Mittal, la grande famille Mittal a mis la main sur ArcelorMittal, détient la plus grande partie de la production d'acier en France, mais depuis 20 ans maintenant, ArcelorMittal est en train de dégrader fortement, quelque part, de condamner la production d'acier en France.
On a l'impression que l'histoire se répète. Mm. Je me souviens moi-même d'avoir été sur le site de Florange au moment de la campagne de 2012. Avant ça, c'était encore un autre site. L'histoire se répète et à chaque fois, les uns, les autres, vous promettez de sauver les emplois. Aujourd'hui, finalement, c'est 113 salariés avec la fermeture de deux sites à Reims et à Denain, 24 salariés qui est acté, mais c'est globalement 15 000 emplois directs ou indirects qui sont en jeu.
Exactement. Même plus que ça, c'est 15 000 emplois directs, 80 000 emplois indirects. C'est énorme, premièrement. Deuxièmement, il ne s'agit pas là de promesses, comme l'avait fait François Hollande, vous vous souvenez, il y a 10 ans. Il s'agit très concrètement de nationaliser ArcelorMittal. Nous proposons cette loi qui est passée au vote en commission des finances la semaine dernière. Et on n'est plus tout à fait dans le même dans la même époque, en fait, parce que les mois à venir sont absolument décisifs. S'il n'y a pas d'investissement dans ce qu'on appelle l'acier vert pour passer à des fours électriques, alors, et c'est même le PDG d'ArcelorMittal qui l'a dit à l'Assemblée nationale, alors l'acier sera condamné en France d'ici 4 ans. Et comme il faut 4 ans pour investir dans les fours électriques, ben c'est maintenant qu'il faut le faire, tout de suite maintenant. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, ArcelorMittal est en train de délocaliser la production d'acier française, eh bien, en Inde, aux États-Unis, au Brésil. Et là, s'il ne fait pas l'investissement dans les mois à venir, c'est cuit, c'est mort.
Ça coûte combien ?
3 milliards d'euros. Et je vais le dire, qu'est-ce que c'est 3 milliards d'euros à côté de l'indépendance de la France, de la souveraineté industrielle ? Parce que, regardez, dans ce studio, chacun qui nous écoute, regardez autour de vous, de l'acier, il y en a partout. Il y en a dans la fourchette que vous avez pris, la cuillère que vous avez pris ce matin, dans le train, dans la voiture que vous allez prendre, dans la centrale nucléaire, dans la fusée, l'avion, etc. Toute l'industrie en France dépend de l'acier. Il faut savoir que la première Europe politique en France a été bâtie sur l'acier.
Sur l'accord, évidemment, sur l'acier et le charbon. Ça veut dire aussi, Aurélie Trouvé, pour notre indépendance, y compris militaire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une journée où on s'apprête à annoncer qu'il va falloir renforcer notre défense, pas seulement par les outils, mais aussi par les hommes. L'acier est évidemment un des constituants essentiels de notre souveraineté.
J'ai tout à fait dans votre sens, Apolline de Malherbe. En réalité, l'acier, c'est un actif stratégique. Sans ça, il n'y a pas d'indépendance en matière de défense, en matière d'énergie, en matière de transport. Donc, il faut absolument préserver cette production d'acier. Je vous le dis, ça joue dans les mois à venir. Donc, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que la nationalisation. Et je suis stupéfaite du dogmatisme aujourd'hui des macronistes, notamment du pouvoir en place, qui refusent absolument toute action concrète
après,
pour la souveraineté.
Vous reconnaîtrez quand même que les 3 milliards, en ce moment, on ne les a pas.
Mais je vous le dis, combien ça va coûter de supprimer, vous imaginez, une suppression de 80 000 emplois ? Enfin, je veux dire, le coût de 3 milliards, ça n'est rien à côté du coût social de la perte de ces 80 000 emplois, mais aussi la perte des savoir-faire. Enfin, moi, pour être allée à Dunkerque, à Florange, à Gandrange, etc., il y a tellement de savoir-faire français. Et si on nationalise, on pourra devenir un pays leader mondial de l'acier vert. C'est maintenant que ça se joue.
Il y a une question aussi, c'est de savoir si ce budget va passer. Certes, aujourd'hui, c'est une journée de pause avec cette journée de niche parlementaire. Les débats vont reprendre. Hier, je recevais François Hollande qui reconnaissait à demi-mot que s'il fallait en passer par le 49-3, alors il estimait que c'était une des solutions finalement les moins pires.
Bah ça, c'est franchement c'est quelque part une trahison de la part de François Hollande vis-à-vis de ce pourquoi il a été élu. Je rappelle qu'il a été élu sur le programme du nouveau Front populaire qui est sur l'idée d'une rupture avec la logique macroniste. Et la logique macroniste, nous ne l'acceptons pas. C'est-à-dire préserver les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales et pour faire des économies, et bien faire payer les malades, les retraités, etc. Et c'est la logique de la version de départ du budget que nous refusons. Et donc, il n'y a pas de compromission et de compromis et donc de compromission possible avec ce budget.
Ce 49-3 qui revient par la fenêtre, ça vous surprend ?
Est-ce que ça me surprend
Je me sens presque dépité et désolé.
Dépité, désolé, mais je veux dire à tous les Français qui nous écoutent, parce que souvent il peut y avoir quelque part de l'amertume en se disant mais à quoi bon voter ? On a voté il y a un an pour une rupture et finalement ça change rien. Je veux leur dire surtout allez aux urnes toutes les prochaines fois, parce que oui, nous arriverons à changer la vie des gens, oui, nous arriverons à changer ce système et faire en sorte qu'enfin, ce soit la justice, le partage des richesses, la relance écologique et sociale qui l'emporte. En tout cas, nous allons continuer à nous battre. Et aujourd'hui même, dans cette fameuse niche parlementaire de la France insoumise, nous allons proposer plein de lois pour changer réellement la vie des gens.
Merci beaucoup, voilà. Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis. 7h50, une autre voix de gauche, Cécile Duflo, est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile. Cécile, vous lancez un appel ce matin, un appel à tous les candidats à l'élection présidentielle.
Oui, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des consensus, même pas des compromis. Des consensus, c'est celui des temps de l'enfant. Il y a 130 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois, ils ont produit un remarquable travail et je voudrais qu'ils s'engagent.
Les temps de l'enfant, un engagement concret, vous lancez votre appel dans un instant, 7h50.
À tous ceux qui savent que le plus difficile quand on fait un rôti, c'est pas la cuisson, c'est le ficelage. Pourquoi ils inventent pas le rôti à scratch, tiens? Ça, c'est une idée. Elodie, note ça, le rôti à scratch. On va faire un carton. Et mets ton doigt là, s'il te plaît. J'arrive pas à nouer la ficelle. Pas ici, là. Tu m'aides pas vraiment, hein? Bon, et jusqu'à samedi, Intermarché propose le rôti de porc Origine France à seulement 3,49€ le kilo. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rôti de porc, longe, sans os, sans filet mignon.
Toyota.
Cette Yaris est à moi.
Je l'ai vue en premier.
Et lâchez cette portière.
Attention, derrière vous.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Et voilà, elle est à moi.
Le Black Friday hybride débarque chez Toyota. Venez profiter d'une prime exceptionnelle allant jusqu'à 4 000 € sur Yaris et Yaris Cross hybride pour la reprise de votre ancien véhicule.
Monsieur, elle s'est enfermée dans la voiture.
Toyota. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d'une Yaris ou Yaris Cross hybride neuve avec reprise d'un véhicule jusqu'au 1er décembre 2025 dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Black Friday, vendredi noir. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflo. Mais d'abord, le bonus. Et le bonus, eh bien, c'est un anniversaire. BFM TV fête ses 20 ans ce soir, Mathieu.
C'était le 28 novembre 2005. BFM était officiellement lancé. Et en 20 ans, sur BFM, on a raconté tous les grands événements. On en a pris quelques-uns, mais le débat Royal Bayrou, l'entre-deux tours de 2007, l'année tragique de 2015, bien sûr, c'est la chaîne de l'événement. Et comme ce week-end, tiens, de mai 2011, où Dominique Strauss-Kahn était à la une, écoutez cette jeune correspondante aux États-Unis.
Il était
13h, heure locale. Dominique Strauss-Kahn était au Sofitel de Times Square. Une femme de chambre qui est venue faire le ménage dans la chambre
Apolline,
de Dominique Strauss-Kahn.
C'est vous qui avez la première annoncé l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn en France.
Oui, je m'en souviens évidemment. Il était 5h du matin au moment où vous entendez cette voix, ce duplex, donc depuis les États-Unis. 5h du matin parce qu'en fait, la nouvelle, elle était tombée à 19h, heure américaine, 2h du matin, heure française. Et on a décidé sur BFM TV, et je trouve que c'était vraiment l'ADN de BFM TV. C'est là que le réflexe info, le fait de donner l'information en temps réel, les premiers, a commencé. Au lieu de prendre l'antenne à 6h, on l'a prise à 5h du matin. Et on est donc les premiers à avoir donné l'information.
Les 20 ans de BFM, soirée spéciale ce soir à partir de 21h avec Alain Marchal et Olivier Truchot.
Et j'y serai.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Et à 7h52, c'est la voix de gauche ce matin. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, le temps politique vous désole, mais ce matin, vous lancez un appel à tous les candidats pour 2027.
Parce que le temps politique, c'est un nouveau candidat ou une nouvelle candidate quasiment tous les jours. Mmh. Donc du coup, peut-être qu'ils pourraient tous s'engager, et c'est ma demande, à prendre en compte, à porter et à traduire dans les faits ce qu'a produit la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. 130 personnes qui ont travaillé tous ensemble et qui ont approuvé leur rapport final à 93%. Quand on voit les difficultés actuelles de la vie politique française, ça donne une leçon.
Donc, les temps politiques, c'est un naufrage, mais les temps de l'enfant, ça peut effectivement être un très bel engagement. La Convention citoyenne, elle a rendu donc ses conclusions en début de semaine.
Oui, c'était il y a 3 jours. Et vous vous rendez compte, dans le temps de l'actu, c'est presque passé
à la trappe. C'est déjà, oui.
Voilà, alors que ça fait 30 ans qu'on travaille sur ce sujet, 30 ans qu'on sait que les rythmes scolaires ne sont pas adaptés à nos enfants, 30 ans qu'on voit que les neurobiologistes disent que ça ne peut pas fonctionner comme ça, qu'il y a des lobbies dans un sens, des lobbies dans l'autre sens, des ministres qui essayent de faire des choses. Et je trouve que pour le coup, la Convention citoyenne, c'est un bon moyen. 133 personnes, 6 mois de travail, des adolescents et des enfants qui ont aussi été consultés, et le résultat des propositions validées par 93% est intéressante.
Vous avez l'air emballée. Leurs propositions, elles ne sont pas très originales.
Je suis emballée parce que justement, leurs propositions ne sont pas forcément très originales. On ne va pas diminuer les vacances d'été, c'était ça, la commande presque du président. Mais en revanche, il y a quand même plein de choses novatrices sur les horaires en journée, sur le fait de pouvoir avoir d'autres types d'activités, typiquement de la formation à la cuisine, à la gestion des impôts, aux finances, des choses qui ont été abandonnées depuis très longtemps. Et puis du sport, beaucoup plus d'activités diverses l'après-midi. Bref, des choses vraiment intéressantes.
Avec une semaine de 5 jours, avec en effet un début un peu plus tard le matin pour que les enfants n'aient pas à se lever si tôt. Vous pensez que les politiques, ils devraient vraiment s'en saisir? Le président a dit qu'il allait recevoir les représentants de la Convention. Bon.
Voilà, bon, comme vous dites, on a déjà vu ce qui s'est passé. Oui, c'est pour ça que j'aimerais bien, on pourrait se dire sur ce sujet-là, les enfants, notre avenir. Et surtout une urgence, parce que si on s'occupe pas des temps de l'enfant, aujourd'hui, ils seront plus enfants. Surtout aussi parce que ça fait 30 ans que notamment on dit qu'il faut que les enfants aient ces 5 jours, que c'est bien mieux pour les apprentissages, bien mieux pour leur santé, tout simplement. Et donc on pourrait se dire que là, ça fait accord de tous les politiques. Et comme ils sont tous en train de s'engager à plein de choses, s'ils pouvaient, sur un sujet, celui-là, sur lequel il y a eu ce travail, s'engager tous dans le même sens, franchement, ce serait une bonne nouvelle.
Engagez-vous, c'est l'appel donc de Cécile Duflo
ce matin. Pour les enfants, c'est quand même.
Engagez-vous pour les enfants, un appel donc lancé ce matin à tous les candidats à la présidentielle. En plus, la liste devrait encore augmenter. Donc en fait, on va pouvoir avoir tous les jours.
Ça peut arriver et je compte sur vous pour leur demander.
Je leur demanderai, je porterai cette question. Cécile Duflo, la voix de gauche sur RMC. Demain, place au débat. Vous serez face à la voix de droite, Charles Consigny. Il est 7h56. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, le retour du service militaire en France. C'est l'annonce prévue donc tout à l'heure par Emmanuel Macron en déplacement en Isère. Nous serons sur place dès le début de ce journal. La météo, attention, risque de verglas. Et puis juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre qui va nous parler du SMIC. Bonjour Emmanuel, le SMIC va augmenter le 1er janvier prochain?
Il y aura la revalorisation mécanique, mais très probablement pas de petits coups de pouce supplémentaires.
A tout de suite, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.